Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Qui est Véronique Turner? Dorénavant, de temps à autre, je vous proposerai dans cette émission de revenir sur le parcours d'une personnalité du numérique et de la tech. Pour cela, je ne serai pas seul, évidemment. Et vous l'avez entendu, pour commencer, j'accueille Véronique Turner. Présidente de Numéum, syndicat et lobby de l'industrie du numérique, elle est également entrepreneur. Son histoire, c'est en partie celle d'une femme ayant mis son expérience dans le numérique au service des autres et d'une tech plus durable. Fille d'un cadre d'Alcatel et d'une assistante de direction, la nouvelle tête pensante du Numéum n'a pourtant pas toujours baigné dans le virtuel. Étudiante, puis ingénieure, développeuse, entrepreneur et mère de deux enfants, Véronique Turner est aujourd'hui présidente d'une organisation représentant 2500 adhérents, réalisant 85% du chiffre d'affaires total du secteur, dont 1100 PME. Autant vous dire que son quotidien est bien rempli. Alors, je vous pose à nouveau la question. Qui est vraiment Véronique Turner? Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Véronique Turner.
Ben bonjour.
Alors Véronique, vous êtes une femme aux multiples casquettes, si je puis dire. Casquette d'entrepreneur d'une part, de présidente de Numéum aussi. Et vous avez à 51 ans un long parcours déjà. Mais avant de parler de toutes ces aventures, parlons de vous, de vos origines. Qui êtes-vous et d'où venez-vous, Véronique Turner?
Je commencerai déjà par ma famille. Je suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs ou une famille qui était dans le secteur du numérique. J'ai grandi dans un milieu plutôt bourgeois où les études sont la valeur de travail, des études sont des valeurs importantes. Je me suis rendu compte sur le tard que j'avais eu la chance d'avoir des parents qui faisaient pas de distinction entre mon frère et avec mes sœurs, avec ma sœur et moi-même. Aujourd'hui, je vois qu'en fait, c'est une vraie chance. Je m'en suis rendu compte après dans mon parcours que ça pouvait être un biais déjà à la base. Ils m'ont donné une grande confiance en moi. Ils m'ont vraiment donné des valeurs que tout était possible à partir du moment où on travaillait. Donc, il y avait une valeur travail importante. J'ai fait des études d'ingénieur parce que d'abord, mon milieu de ma famille est plutôt issu en fait quand même. Mon papa était ingénieur en chimie. Il a déposé pas mal de brevets. En fait, il avait toute sa carrière chez Alcatel Cable. Et donc, il m'a beaucoup inspirée. C'est vrai que j'ai pris cette filière scientifique. Donc, j'ai fait une prépa, j'ai fait des écoles, une école d'ingénieur. Et très rapidement quand même, j'ai eu envie d'entreprendre. Donc, j'avais envie de tracer ma voie, de pouvoir mettre en œuvre mes idées. Et donc, j'ai fait très peu de salariat parce que j'ai dû faire 2 ans de salariat.
Oui, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Je suis sortie d'école d'ingénieur. J'ai travaillé dans une ESN, une petite ESN déjà, parce que j'avais envie de pas être un numéro dans une très grande boîte. Et je voulais en fait pouvoir agir sur la stratégie de la boîte. J'ai démarré en tant que... Puis après, j'ai fait un parcours entrepreneurial. Et puis, une caractéristique, c'est par contre que tout de suite, j'ai démarré dans le secteur du numérique. Alors, je vous ai dit, j'avais pas un contexte familial qui était sur le sujet du numérique. Donc, moi, j'avais pas touché un ordinateur de ma vie avant ma prépa.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Finalement, c'est le numérique, ça faisait pas partie de votre quotidien plus que ça avant. Ça faisait pas partie de votre histoire.
Non, pas du tout. J'avais pas touché un ordinateur avant ma prépa. Puis j'ai découvert l'informatique, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas le mot numérique. J'ai découvert en prépa avec mon prof de maths. Et alors, ça a été le coup de cœur. Pas avec mon prof de maths, mais avec l'informatique. J'ai adoré, en fait, l'algorithme.
D'accord.
Et je me suis révélée, en fait, dans cette matière. Et derrière, en fait, en école d'ingénieur, j'ai pris la filière qui était plutôt sur la filière informatique. À l'époque, en fait, j'ai fait une spécialisation en traitement du signal qui maille, en fait, beaucoup d'informatique. J'adorais cette matière. Et puis, quand je suis sortie diplômée, finalement, Il y avait beaucoup de jobs, en fait, dans le secteur de l'informatique. Et donc, j'ai démarré en tant que développeuse. Voilà, donc c'est comme ça qu'en fait, je suis venue au secteur du numérique. Et voilà, j'ai démarré en tant que développeuse, puis chef de projet. Puis rapidement, ce que je vous disais, j'avais envie de créer une boîte, de monter un projet. Puis j'ai fait la connaissance d'une personne importante dans mon parcours pour l'entrepreneuriat. C'était Francis Lelon et puis Pierre-Édouard Sterrin, qui sont devenus deux entrepreneurs emblématiques.
Oui.
On a créé ensemble une première aventure qui s'appelait Black Orange et qui était un site de e-commerce qui vendait du logiciel en ligne. Donc là, on est dans les années 1998. Je me suis associée à eux. J'étais le profil technique, j'étais la CTO de la bande. Je connaissais rien, je sais pas ce que c'était qu'un business plan. Par contre, je savais développer. Et puis, j'ai appris à leur côté à c'est quoi un business plan, comment on développe une entreprise, c'est quoi le marketing, le commerce, la stratégie. Et en l'espace de 2 ans, parce que Black Orange, c'est une aventure hyper intense, mais très courte. En l'espace de 2 ans, j'ai vécu une expérience incroyable. Et du coup, ça m'a donné des ailes pour la suite. Cette expérience Black Orange, elle était aussi assez fondatrice parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai démarré à travailler en salariat, je suis rentrée dans une boîte et le fondateur de cette boîte, il m'a suivi également dans l'aventure Black Orange. Il a mis de l'argent, il a cru en moi. Et puis, c'est devenu en fait mon associé pour Alterweb. Donc, on est resté en ligne ensemble, on s'est suivi, etc. Et puis maintenant, c'est un grand ami aussi. Mais ça a été quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a suivi aussi dans mes aventures entrepreneuriales. Et puis, on a créé Alterweb ensemble en 2006.
Alors, on y reviendra justement sur Alterweb. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là aussi. On y reviendra plus tard. J'aimerais savoir, avant de continuer, ce que ça représente aujourd'hui pour vous, finalement, le numérique. Vous venez pas d'un milieu très axé sur le numérique, d'un environnement familial, vous l'avez dit, où le numérique était très présent. Et finalement, c'est toute votre vie, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, le numérique. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel est votre rapport au numérique?
Alors, c'est vrai, en fait, aujourd'hui, tout mon environnement professionnel, il tourne autour du sujet du numérique, que ce soit mon entreprise, que ce soit mes activités associatives au travers de Numéum. Je trouve, en fait, ça a été un vrai révélateur pour moi, une ouverture, en fait, sur le monde professionnel qui est infini. Depuis que j'ai touché ce secteur-là, tous les jours, j'apprends des choses. Je me rends compte qu'au travers de quelque chose qui est très techno, il y a des usages derrière qui touchent tout secteur. Et on a le sentiment, quand on travaille dans ce secteur-là, de pouvoir avoir un impact. Et ce qui réellement ces dernières années a été un peu mon moteur, c'est comment en fait on utilise le numérique sur une trajectoire d'impact positif. Évidemment, ces dernières années, ça a été sur le plan économique, puisque c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois, qui transforme l'ensemble des industries, qui offre des opportunités business très importantes. Mais également, depuis quelques années, on s'interroge aussi sur ces impacts, sur le plan social, sociétal et environnemental. Et là aussi, on voit qu'il y a des leviers offerts par le numérique de pouvoir avoir un impact positif également sur le sujet du social, du sociétal et environnemental. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui, c'est cet impact positif.
C'est aussi pour ça que vous avez basculé, si je puis dire, dans le numérique à l'époque où vous êtes devenue développeuse, où vous avez intégré pleinement le monde numérique. Qu'est-ce qui vous plaisait et qui vous a fait poursuivre en plus votre carrière derrière là-dedans?
Alors à la base, c'était assez pragmatique. J'aimais les maths, j'aimais l'algorithmie, c'était le job qu'il me fallait développer.
Oui, quelque chose de très scientifique.
Voilà, très scientifique. In fine, j'ai fait quand même plutôt du développement de ce qu'on appelle plutôt de l'applicatif de gestion et assez éloigné finalement de mes études très scientifiques sur le traitement du signal. Mais j'ai trouvé quand même que c'était un job qui permettait en fait bien de concilier mon esprit scientifique, de la créativité et puis qui était au service d'autres business et je trouvais que c'était très riche. Ça me permettait de découvrir tout un tas d'entreprises, leurs problématiques métiers. Et du coup, au-delà du numérique, je me suis vu aussi des qualités pour appréhender aussi des problématiques métiers et être capable de solutionner des problématiques métiers. Donc, au départ, ça a été vraiment sous cet angle-là que j'ai appréhendé le numérique. Et puis après, en rentrant plutôt dans le monde associatif, j'ai vu en fait tout ce que ça pouvait transformer et que on pouvait être un acteur de la transformation. Et ça, c'était assez excitant.
Oui, j'imagine. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ces premières expériences dans le numérique, très technique finalement, pour la suite? Parce que souvent, les premières expériences nous forgent.
Bah, du coup, c'est vrai que le fait que j'ai commencé en tant que développeuse m'a donné une bonne compréhension de ce qu'est le numérique, dans les couches basses, en fait. Et encore aujourd'hui, je pense que ça me donne une lecture éclairée de la technologie. Parce qu'on peut appréhender cette technologie uniquement sur les usages, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai cette double vision, à la fois par les usages, par l'expérience que j'ai eue à travers mes entreprises, les clients qu'on a accompagnés, ce qu'on fait au niveau Numium, mais aussi j'ai une bonne base technologique. Et c'est vrai que le numérique, on essaye de le rendre de plus en plus accessible à toutes et à tous. Hein. Par exemple, l'intelligence artificielle offre aujourd'hui des possibilités incroyables à des gens qui ne maîtrisent pas du tout la technologie. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant de comprendre le sous-jacent. Et aujourd'hui, à la fois ma formation d'ingénieur et mes premières années en fait, dans la vie professionnelle m'ont permis de bien avoir une bonne compréhension de ce sous-jacent.
J'ai cru comprendre que la volonté d'entreprendre est venue un peu au fur et à mesure. C'est le cas pour vous ou cette volonté de créer des entreprises, de créer des business, c'était là depuis le départ, depuis que vous avez commencé vos études supérieures par exemple?
Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Ça a commencé en fait sur les bancs en fait de l'amphi d'ingénieur. J'avais envie de créer ma boîte. Donc,
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans le fait de créer sa boîte? Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, surtout à cette époque-là où le numérique, finalement, était en plein boom, en plein développement, mais ce n'était pas le numérique très structuré qu'on a aujourd'hui.
Moi, ce qui me motivait, c'était de tracer sa voie, être un peu, avoir la maîtrise de son projet, de pouvoir décider, de pouvoir mettre en œuvre ses idées. C'était vraiment ça qui me motivait. C'est par hasard, en fait, hein, que j'ai créé Black Orange. Finalement, j'ai cherché à rentrer en relation avec des personnes qui avaient peut-être à un moment donné une plus grande maturité sur créer une entreprise. À l'époque, en école d'ingénieur, ça a beaucoup changé. Hein, j'ai 51 ans, il faut le rappeler. Donc, à l'époque, en école d'ingénieur, on vous apprenait pas bien, en fait, à monter un business plan, à monter une entreprise. Donc, j'avais besoin au démarrage, en fait, de me connecter à des gens qui avaient un peu cet ADN, ce que j'ai fait avec Pierre-Édouard Serrat et Francis Lelon, pour pouvoir, en fait, je dirais, mettre le pied à l'étrier. Et je suis très heureuse, hein, en fait, de ce parcours. Je trouve que c'est exigeant. C'est vrai que par rapport à ce que j'avais en tête au démarrage, le fait de ça apporte une grande liberté, mais ça aussi beaucoup de contraintes. Hein, quand vous êtes entrepreneur et que vous gérez des équipes, c'est une grosse responsabilité. Mais je pense que ça convient à ma personnalité. Et puis derrière, l'aventure que j'ai menée avec Philippe Montargès, qui est vraiment là, je dirais, mon partenaire d'Alterway. Voilà, c'est une aventure aussi qui est excitante aussi, je trouve, quand on l'a fait à deux.
Alors justement, vous évoquez, vous parlez depuis le début de plusieurs personnes qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne, peut-être une personne dont vous n'avez pas encore parlé, qui vous a particulièrement inspiré depuis le début, une personne qui vous a donné la motivation et qui vous a permis finalement d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui?
Je pense que j'ai eu des personnes qui ont été des vrais soutiens et qui, au fur et à mesure, m'ont donné confiance par rapport à ce que j'avais envie de faire. D'abord, je vous ai dit, mes parents ont été un énorme soutien. Ensuite, mon mari, que j'ai rencontré jeune, que j'ai rencontré quand j'étais en prépa et qui a toujours été un super sponsor dans mes projets. J'aurais jamais pu faire tout ça, en fait, sans lui, donc Jérôme. Et ensuite, c'est vrai que Philippe Montargès, ça a été aussi quelqu'un qui a cru en moi, qui était plus expérimenté, qui avait déjà sa boîte et qui, à un moment donné, a cru en moi, on a monté des projets ensemble. Il m'a fait grandir et ça a été une super aventure. En tout cas, c'est vrai que moi, je trouve que dans mon parcours à moi, c'est souvent le cas, mais vraiment, c'est ponctué de très belles rencontres. Je ne peux pas tous vous les citer parce qu'en fait, évidemment, ça ne se limite pas à que ces personnes.
Mais j'imagine.
Globalement, c'est vrai, c'est des associations, un travail d'équipe. Par exemple, vous voyez, quand on a monté Black Orange, mes amis qui avaient tous une expertise dans le numérique, ils m'ont aidé à monter l'infrastructure de Black Orange, le réseau, le site web, parce qu'évidemment, je maîtrisais pas toutes les compétences, hein, j'en maîtrisais certaines. Je pense que c'est de savoir bien s'entourer, c'est très, très important dans tout projet.
Vous venez presque d'y répondre, je vais quand même vous la poser cette question, mais est-ce que vous avez connu l'échec ou des obstacles particuliers, se faire une place dans le numérique, même encore en 2024 quand on est une femme, c'est pas toujours facile, malheureusement. Et entreprendre, de toute façon, peu importe qui on est, ce n'est pas toujours facile. Mais à vous écouter, on a l'impression que vous n'avez pas vraiment connu l'échec.
Alors si, bien sûr que si. J'ai connu l'échec, je connais encore en fait des échecs. Forcément, vous avez le quotidien d'un entrepreneur, c'est gérer plein de difficultés. Donc évidemment, quand on en fait la synthèse après, en macro, on prend un pas en arrière, on regarde. Des fois, en fait, vous avez l'impression que tout s'est bien passé. Mais non, en fait, c'est ponctué de phases difficiles, d'échecs aussi, où des fois, en fait, vous devez renoncer à un projet parce qu'en fait, ça a échoué. Je pense que une qualité à avoir, c'est de savoir rebondir, estimer que l'échec, finalement, c'est un point noir, mais vraiment penser que l'échec, c'est une opportunité de rebondir, de se repenser. Donc, c'est pas du tout l'image que j'ai envie de donner d'un parcours qui est lisse, que tout s'est bien passé. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai pas réellement ressenti dans mon parcours un handicap à être une femme. Bien sûr, au démarrage de ma carrière, être une femme n'était pas forcément évident dans un environnement technologique, mais j'ai jamais senti que c'était une barrière très forte. Voilà. Donc, c'était une petite difficulté à surmonter, mais comme je pense qu'on a tous des difficultés. Je pense que certaines femmes ont peut-être dû connaître de plus grosses barrières à l'entrée. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes aussi m'ont permis en fait de lever assez rapidement en fait ce
genre de barrière, oui.
Ce genre de barrière en fait. Donc vous voyez, au démarrage, mes parents qui m'ont élevé en fait comme mon frère, jamais j'ai eu le sentiment que moi j'aurais moins de chance à pouvoir développer mon projet. Qui m'ont pas dit écoute, non, les maths c'est pas pour toi. Ça m'est arrivé une fois en fait, quelqu'un me dit ça, c'était mon prof de maths en terminale qui me dit non, les prépas pour les filles, c'est un peu.
Oui.
Non, mais bon, ça m'est arrivé une fois, puis ça m'a pas empêché de faire derrière une prépa. Oui, je veux dire, j'ai plutôt rencontré des gens qui étaient vraiment des vrais sponsors où le sujet d'être une femme ou un garçon, c'était pas un sujet.
Tant mieux.
Ça, c'est certainement une chance que j'ai eue en fait dans mon parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'être une femme dans ce secteur, c'est un énorme avantage.
Ah oui, un avantage.
Bah oui, parce qu'on manque énormément en fait de femmes dans ce secteur. On œuvre, tout l'écosystème œuvre à la féminisation du secteur et il y a une conviction qui est partagée par le secteur. Comme le fait d'avoir des femmes est une vraie richesse. Aujourd'hui, en fait, un manque de talent sur le secteur et se priver en fait de 50% de la population, mathématiquement, c'est un énorme problème. Donc là, on œuvre beaucoup sur le sujet de la féminisation. Il y a énormément d'actions qui sont entreprises. Et donc aujourd'hui, une jeune femme qui veut travailler sur le secteur, j'ai envie de dire, elle a une voix royale.
D'accord, donc c'est quand même assez simple. C'est devenu assez simple quand on est une femme d'intégrer le monde numérique et de la tech.
Non, c'est toujours pas simple. Pourquoi ? Parce que d'abord, le sujet n'est pas très attractif encore. Donc, il y a un vrai sujet de rendre attractif, en fait, notre secteur, nos métiers. Ça, dès le plus jeune âge. Quand vous êtes une jeune femme, une jeune fille en troisième, travailler dans le secteur du numérique, c'est pas très sexy. Vos parents vous le disent pas. Ah, tu devrais travailler dans le numérique. Vos profs vous le disent pas. Et puis, de vous-même, vous ne dites pas, tiens, l'image que renvoie ce secteur, il n'est pas forcément toujours très sexy, très lisible. Donc ça, il y a un travail qui est à faire parce que il n'y a pas de raison. Ce secteur, il n'est pas genré. Et puis après, quand vous rentrez dans le secteur, comme il y a une grande majorité d'hommes, parfois, en fait, vous n'avez pas l'impression que les codes, ce sont les vôtres. Donc, le parcours n'est pas simple. Mais par contre, pour celles qui franchissent ces étapes-là et qui décident de rentrer dans ce secteur, en général, il y a toujours des exceptions, mais au général, aujourd'hui, plutôt, il y a une voie royale qui est tracée parce que tout le monde veut intégrer des femmes. On sait que c'est un facteur de performance. On sait que on manque de talent. Donc, en fait, aujourd'hui, si on veut ouvrir un levier important, eh bien, il faut aller chercher là où il y en a moins de personnes. Et aujourd'hui, il n'y a que 29% de femmes dans notre secteur. Et sur les métiers techniques, c'est plutôt 16-17%. Vous voyez qu'en fait, si vous doublez votre effectif de femmes dans votre entreprise, vous faites déjà un grand pas sur le sujet du manque de compétences.
Oui, et il y a encore pas mal de chemin à parcourir, mais on va dans la bonne direction. C'est aussi ça qu'on peut retenir de vos propos. J'aimerais maintenant que l'on s'attarde sur une autre partie de votre vie. Vous avez déjà commencé à l'aborder un petit peu avant, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Alterway. Alors, c'est quoi Alterway et pourquoi s'être lancé dans une telle aventure ?
Alors Alterway, c'est pas ma première aventure entrepreneuriale puisque j'ai eu Black Orange et puis ensuite j'ai travaillé une entreprise qui s'appelait Masterline. Alterway, c'est un projet qu'on a fondé à deux avec mon associé Philippe Montargès et avec vraiment l'ambition de créer un acteur dans le secteur de l'open source. Donc on est en 2006, on est assez précurseur parce qu'en fait l'open source à l'époque c'est encore un sujet un peu alternatif. On pense que c'est des barbus dans un garage, un peu des altermondialistes de la technologie. Mais on a une vraie vision qui est de se dire que dans l'avenir du numérique, il y aura une place importante qui sera consacrée à l'open source parce qu'il prône des valeurs de transparence, parce qu'il prône des valeurs d'intelligence collective, du partage. Et on y croit beaucoup. Et donc, on décide de créer une société de service parce que c'est vraiment notre valeur ajoutée sur l'angle de l'open source. Et donc, on a développé cette entreprise dans un premier temps en faisant des acquisitions de petites structures qui étaient vraiment spécialisées sur des niches autour de l'open source. Et puis ensuite, en se rapprochant d'un acteur industriel qui était Econocom, qui nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires entre 2015 et 2001. Et puis, en 2021, on s'est rapproché du groupe Smile, qui est le leader en Europe des entreprises de services numériques en open source, qui est un acteur français, mais qui a une envergure aujourd'hui européenne. Et on a pris la décision de se rapprocher vraiment dans un projet industriel pour créer vraiment une entreprise française, leader en Europe sur ces sujets-là. Et donc là, depuis maintenant 2 ans, je suis notre aventure Smile, aux côtés de Marc Palazon, qui est le CEO de Smile. Et c'est une belle aventure entrepreneuriale là qui se poursuit autour de cette thématique forte qu'est l'open source.
Oui, parce que c'est aussi ça qu'il faut bien noter, c'est que vous êtes devenue récemment présidente de Numéum, mais vous avez gardé d'autres activités à côté.
Exactement, tout à fait. Je suis toujours entrepreneur, dirigeante en fait d'Alterway qui a rejoint le groupe, mais qui se concentre sur toutes les activités d'infrastructure, cloud, DevOps. Donc, je porte pour le groupe cette activité. Donc, j'ai toujours une activité très opérationnelle que j'adore. Je remercie mes équipes parce que grâce à eux, je peux consacrer un peu de temps aujourd'hui à Numéum. Et donc, c'est une belle aventure. Moi, ce qui a vraiment motivé tout mon parcours aussi, je pense que vous l'avez un peu vu, c'est vraiment le travail du collectif. Moi, j'aime jouer équipe. Dans mon parcours entrepreneurial, c'est ce qui a un peu aussi dicté mon projet. Et puis, chez Numéum, évidemment, là, c'est le jeu collectif à fond.
Comment vous faites? Parce que est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour vous, pour votre vie personnelle dans tout ça? Parce que avoir des loisirs quand on est présidente de Numéum, quand on est entrepreneur, quand on est femme d'affaires finalement, mais aussi mère de famille, ça doit pas être facile tous les jours.
C'est vrai, j'ai 2 garçons, un garçon de 20 ans et 17 ans. Et donc, j'ai toujours, tout au long de mon parcours, j'ai toujours donné une grande place à ma famille. Mais c'est vrai que je suis une femme entrepreneuse, donc en fait, j'ai quand même un agenda qui est dense en semaine. La clé, c'est une super organisation et d'être très bien accompagnée.
D'accord, ok.
Donc, je suis bien accompagnée partout. Je suis bien accompagnée au sein de ma famille. Je suis bien accompagnée au sein de mes équipes Alterway. Je suis bien accompagnée chez Numéum.
Oui, on y revient souvent dans vos propos finalement, l'accompagnement, bien s'entourer, on a vraiment l'impression que c'est la clé dans votre parcours.
Oui, tout à fait, je pense que j'aime l'intelligence collective, le travail collaboratif, ça c'est vraiment dans mon ADN. D'ailleurs, c'est pour ça que l'open source m'a tant séduit. Et puis parce que je pense qu'en fait, on ne peut jamais tout faire tout seul. Et puis quand vous voulez aussi avoir différentes activités, si vous voulez vous préserver du temps aussi à vous, il faut être super organisé, puis être capable d'avoir des gens en fait, sur qui vous pouvez avoir confiance, que vous pouvez déléguer des tâches. Ça, c'est hyper important.
Et donc maintenant, place à Numéum, l'une de vos aventures les plus récentes. Qu'est-ce que Numéum? Comment vous expliqueriez ce que c'est?
Alors, Numéum, c'est un syndicat patronal, c'est une organisation professionnelle qui regroupe aujourd'hui les acteurs du numérique. Alors, pas tous les acteurs du numérique, parce que ça englobe, je dirais, aujourd'hui un panel très, très large, mais ça englobe les acteurs qui sont les éditeurs de logiciels, les entreprises de services numériques, toutes les sociétés de conseil en technologie, puis tous les acteurs dits plateformes.
OK.
Un Doctolib, par exemple, c'est un acteur dit plateforme. Vous voyez, donc c'est un acteur qui est dans le monde de l'e-santé, mais qui, dont quand même, je dirais, est un acteur de la tech. Donc, ça regroupe tous ces acteurs. Aujourd'hui, ça regroupe 2500 entreprises. Et ces 2500 entreprises, elles pèsent 85% du chiffre d'affaires du secteur. Donc, on est une organisation qui est très représentative. On est la première organisation de France qui regroupe, je dirais, ce périmètre-là. À côté de ça, je dis que c'est un syndicat patronal, c'est parce qu'on a la responsabilité de porter, au travers de la fédération dans laquelle on est rattaché, qui s'appelle la fédération Syntec, on porte la convention collective qui régit en fait tout le cadre social de nos entreprises.
Beaucoup parlent de lobby quand ils parlent du Numéum. C'est juste pour vous ?
Oui, bien sûr, en fait. Hein, quelle est la fonction d'une organisation professionnelle ? C'est de valoriser en fait les entreprises qui sont, je dirais, ses membres, hein, qui font de sa communauté, de rendre attractifs ses métiers et puis évidemment de faire valoir en fait la valeur du numérique, de nos métiers, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sociétal, environnemental. Voilà, donc en fait on embrasse bien en fait l'ensemble. Donc oui, une organisation professionnelle, c'est un organe de lobby et d'influence, bien évidemment.
Et pourquoi avoir accepté, on l'a vu juste avant, vous aviez déjà pas mal de choses à faire au quotidien, pourquoi avoir accepté, comment ça s'est passé, cette arrivée à la tête du syndicat ?
Ça faisait en fait 10 ans que j'étais engagée au sein du syndicat par différentes missions, j'ai présidé la commission des PME, vous voyez sur les 2500 entreprises, vous avez 2000 entreprises qui sont de la taille de start-up, TPE, PME. Je me suis occupée des sujets autour du numérique responsable, la confiance, les sujets autour de l'environnement, avec l'initiative Planète Tech Care que j'ai lancée. Voilà, donc ça faisait plusieurs années en fait que j'étais engagée et intégrée, élue au sein du conseil d'administration. J'étais aux membres du COMEX. Je me suis intéressée aussi, j'étais membre du comité statutaire. Donc voilà, donc j'avais été très engagée, j'avais pris différents mandats. Et puis là arrivait en fait la fin de mandat en fait de mes prédécesseurs. Et j'ai décidé en fait de me mobiliser. C'était en fait, il y avait à un moment donné un agenda, un bon timing où je me disais qu'au niveau de l'entreprise, je pouvais me permettre de consacrer un petit peu plus de temps. Je connaissais bien l'écosystème. Chantait en fait qu'il pouvait avoir un écho favorable aussi de mes pairs à mon élection. Et donc, j'ai posé ma candidature, j'ai fait campagne et puis voilà, j'ai été élue.
Finalement, c'était presque naturel pour vous de devenir présidente de Numéum ?
Oui, ça s'est fait naturellement. En fait, il n'y avait pas le projet pour moi, il y a 10 ans, de dire tiens, je vais rentrer puis je vais être présent. Ça s'est fait naturellement, c'est par mon engagement. Et puis, par le travail avec mes pairs, à un moment donné, voilà, j'avais envie de porter un engagement un peu plus fort. Et puis, c'était le bon timing. Et j'en suis ravie.
Et quel combat maintenant, quelle cause vous comptez défendre, mener à la tête de Numéum ?
Alors, on s'est fixé 3 grandes priorités. On a construit ce projet de manière très collégiale avec le conseil d'administration. Et on s'est fixé 3 grandes priorités. D'abord, les territoires. Parce que il y a une vraie priorité aujourd'hui, être au plus proche en fait du terrain, dans les régions, dans les territoires. Donc Numéum, c'est une organisation nationale, mais qui a une empreinte forte dans les territoires. On a 12 délégations régionales. C'est aussi, quand je parle des territoires, c'est aussi le territoire européen. On a un bureau à Bruxelles. Vous savez qu'il y a énormément de réglementations qui se font à Bruxelles, notamment sur le numérique. Et donc, c'est majeur pour nous d'être un acteur influent et qui est en capacité de proposer des actions, aussi travailler sur les textes, parce que ça a un impact en fait sur nos entreprises. Donc, les territoires au sens européen, mais également vraiment régions, ça, c'est un axe fort. Deuxième priorité, c'est les compétences. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en disant qu'on manque cruellement de talents. Et là, c'est notre plafond de verre. Ça fait des années que notre secteur souffre en fait du manque de compétences. Et c'est un sujet vraiment pour nous de frein à notre croissance. C'est un sujet important pour la France, un sujet important pour l'Europe. Et si on veut régler ce problème-là, il faut travailler sur différents sujets. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure en disant qu'il faut agir dès le plus jeune âge. Il faut parler aux jeunes sur le collège pour qu'ils comprennent bien en fait ces métiers, qu'ils aient envie de faire derrière des études sur le sujet du numérique. C'est aussi de travailler toute la formation initiale, travailler donc avec l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est tous aujourd'hui les sujets aussi de la formation continue et notamment les sujets de reconversion. De nombreux secteurs sont disruptés. et notamment par le numérique. Et il se trouve qu'il y a plein de métiers qui sont en attente dans le numérique. Donc, on peut accompagner des personnes aujourd'hui, soit sans emploi, soit actifs, à venir, je dirais, se reconvertir dans le numérique. Donc là, par exemple, on a un dispositif qui est super puissant, qui adresse plutôt les gens éloignés de l'emploi, qui s'appelle Numérique Emploi, en partenariat avec France Travail, le nouveau pôle emploi.
Oui, le nouveau, oui.
Avec qui on a un dispositif qui est né en région il y a 7 ans, qui a fait ses preuves. 80% de taux de réussite des gens qui rentrent dans ce parcours-là, qui retrouvent un job derrière, donc c'est énorme, qu'on est en train de le déployer dans l'ensemble des régions. Et ça, en partenariat avec France Travail, l'OPCO Atlas, les régions, nos entreprises. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est des dispositifs qui sont vraiment impactants, qui ont du résultat. Évidemment, le sujet de la féminisation, c'est pareil, c'est un sujet qu'on traite depuis 10 ans, qui évolue pas beaucoup. Donc, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Et là, on travaille avec la Fondation Femmes Numérique, qui est présidée par Elisabeth Moreno. Mais on a un programme en tant que tel qu'on vient de lancer, qui s'appelle Nova Intech, qui a été lancé par une des administratrices qui s'appelle Maëlys Thaume, qui a lancé ça avec énergie. Pareil, dans l'ambition qui est vraiment de travailler autour de la reconversion des femmes dans le numérique. On pense là qu'il y a un vivier très important à travailler. Oui, tout un tas de sujets à travailler pour faire bouger les lignes, casser le plafond de verre du problème des compétences. Puis la dernière priorité, c'est le numérique responsable. Vous en avez parlé, hein, vous l'avez peut-être vu.
Oui, j'ai remarqué.
Ça, c'est un moteur important. Je crois que le numérique est incontournable aujourd'hui, mais on se rend compte aujourd'hui que le numérique, il a une dimension pharmacologique, hein, un peu potion-poison. Il véhicule beaucoup d'anxiété dans la société parce que il opère des changements qui sont très rapides. Il offre évidemment d'énormes opportunités, mais ces changements, le fait qu'ils soient très rapides, très disruptifs, créent de l'anxiété. Et nous, acteurs des professionnels du numérique, c'est notre devoir en fait de proposer un futur du numérique qui soit responsable pour accompagner la société à se saisir, à comprendre les opportunités, à se saisir des opportunités et pas en avoir peur. Et puis, c'est aussi notre travail, c'est de aussi gérer les biais que peuvent engendrer le numérique. On le voit sur l'environnement, hein. Le numérique, c'est aussi une industrie qui a une empreinte environnementale. Mais c'est vrai que c'est un énorme levier sur plein de secteurs pour résoudre le problème de la transition écologique. C'est un facteur important d'inclusion. Mais c'est vrai que si on parle aussi beaucoup d'électronisme, et donc, il faut être capable que le numérique soit accessible à toutes et à tous et donner les clés à tout le monde, partout dans les territoires, pour que tout le monde puisse se saisir des opportunités offertes par le numérique. Et je crois que si on fait ce travail-là, on peut accompagner correctement, en fait, notre secteur à grandir en proposant une innovation responsable qui intègre bien les dimensions économiques, sociales, sociétales et environnementales. Et puis, on accompagne aussi les autres secteurs à pouvoir se saisir des opportunités offertes par le numérique et du coup, à bien appréhender les transitions, les transformations à venir.
Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous êtes à la tête de Numéum ?
Eh bien, moi, j'ai envie que là, sur les 3 ans de mon mandat, eh bien, on puisse avoir un Numéum qui puisse être influent sur les grands sujets de société et qu'on puisse être présent vraiment à bonne échelle dans le débat aussi bien européen, le débat national et le débat au niveau des territoires. Ça, c'est l'enjeu, c'est que notre organisation professionnelle soit cet acteur de référence autour du numérique, qui soit en capacité aussi de fédérer tout l'écosystème numérique français autour de grands dispositifs impactants. Moi, ma préoccupation, mon obsession, c'est le passage à l'échelle. Comment un dispositif, vous voyez, comme Numérique Emploi, qui est né dans la région Grand Est, qui a fait ses preuves, on arrive à le déployer partout et qu'il soit très impactant. Comment l'initiative qu'on a lancée, Planète Tech Care, qui est sur les sujets de numérique et environnement, arrive à rassembler l'ensemble des écosystèmes pour partager tout le contenu, toute la connaissance qu'on a sur ces sujets et que ça soit impactant. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est à réussir à développer de l'engagement autour de nos projets pour passer à l'échelle et pour être impactant.
Merci pour votre venue dans Culture Numérique, Véronique Turner.
Bah, merci beaucoup.
Je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur fidélité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Numérique sur le parcours de Véronique Turner, présidente de Numéum. Vous pouvez écouter tous nos anciens épisodes sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas également de vous abonner pour être informé à chaque nouvelle sortie. Et on se retrouve dès la semaine prochaine.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse?
the federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.